I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Le temps des fêtes de fin d'année, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un parcours hors du commun, celui de la légendaire patineuse artistique Surya Bonaly, icône de ce sport dans les années 90 qu'elle a bouleversé à plus d'un titre, notamment un certain 20 février 1998, avec un geste technique renversant qui changea le visage de sa discipline. Star pour le grand public, championne d'Europe, championne de France, Surya Bonaly n'a jamais connu l'or olympique et a fini par quitter la lumière. La journaliste Anne-Cécile Genre est partie à sa recherche, elle l'a retrouvée aux États-Unis où elle a entamé une nouvelle vie. Avec elle et avec celles et ceux qui l'ont connue, Anne-Cécile Genre a remonté le fil de son histoire et de sa personnalité unique. Elle en a tiré une série documentaire produite par Binge Audio, elle s'appelle Hors Limite, c'est Théo Boulanger qui l'a réalisée avec la complicité de Quentin Bresson, une série en 7 parties dont je vous propose de découvrir la première tout de suite, le temps de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Tout commence par la respiration. Inspire. Les juges vont appeler ton nom d'une minute à l'autre. Expire. Tu es prête. Tu as fait ça toute ta vie. Inspire. Si ton souffle est trop court, ton cœur s'emballera. Expire. Si ta respiration est trop lente, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour sauter assez haut. Alors respire et sois prête à t'élancer dans 5, 4, 3, 2. Aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, la patineuse Surya Bonaly a fait un salto arrière sur la glace. Un saut très dangereux, interdit en compétition. Personne n'avait jamais osé auparavant. Et puis, elle a disparu des écrans de télévision et on n'en a plus jamais entendu parler. Ce saut périlleux lui tenait lieu de révérence, sans un mot d'explication. Comme j'imagine beaucoup d'adolescents de l'époque, j'ai gardé cette image en mémoire. Surya la tête en bas, comme un modèle de bravoure, de rébellion peut-être. C'est resté un mystère. Corps et l'âme, épisode 1. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fastened seatbelt light, indicating our initial approach into the Twin Cities. Please, at this time, en 2018, 20 ans après, je vais rencontrer Surya Bonaly. J'atterris dans le Minnesota, un état du Midwest américain, à la frontière avec le Canada. En chemin, j'ai survolé le fleuve Mississippi et des centaines de lacs qui brillaient au soleil comme des fragments de miroir. L'hiver ici a la réputation d'être rude. Toute cette eau gelée, ça doit être le paradis du patinage.
Hi, are you Abdirazak?
Yes.
Faribault.
Faribault.
Yeah, you know it?
Yes.
C'est le début de l'été et il fait une chaleur caniculaire. J'ai rendez-vous à 1 heure au sud de Minneapolis, à l'école Sainte-Marie-Chatuc.
Ah, that looks like it. Yeah.
It's okay.
Yeah. Looks like a school, right?
Yeah. Yes.
Donc on dirait un peu le château d'Harry Potter, mais avec des installations sportives un peu partout.
Hi. Do you know where it's like there's a reception office or something like that?
Un peu partout autour de moi, il y a des jeunes gens, surtout des filles, qui ont l'air très athlétiques.
Yeah. Ah, okay.
et qui sont toutes sur leur portable. Il faut que je marche à peu près 500 mètres pour arriver à la patinoire. J'imagine que Souria est là-bas.
Elle était patineuse, elle a fait un salto arrière.
Yeah.
Je pense que c'est elle là-bas.
Il est 19h et celle qui a fait tant de bruit il y a 20 ans s'apprête à sortir discrètement de la patinoire.
Je peux faire une petite photo pour mes collègues du podcast?
Ouais, voilà.
It's full.
Je vérifie juste qu'on ferme pas les yeux.
Souria s'est levée à 5h. Elle a passé la journée dans un lieu où il fait moins de 10 degrés. Posée sur son fauteuil, une tisane à la main, elle n'a pas l'air fatiguée. Elle est à la hauteur de l'image que j'avais gardée d'elle, à la hauteur de sa légende. Avec son léger accent de française installée aux États-Unis depuis 20 ans, elle m'emmène loin du Midwest et loin des selfies, là où tout a commencé, aux environs de Nice, en 1973.
Ah oui, tout à fait, c'était la vraie campagne. Mes parents avaient fait le retour à la terre. Quand ils sont mariés, et puis 2 ans après qu'ils m'aient adoptée, ils m'ont dit, je sais pas, ils ont décidé qu'il fallait que je grandisse dans un bon environnement. Et ils avaient acheté une ruine, quoi, vraiment une vraie ruine. Ils ont trouvé à 50 km de Nice. Et même moi, j'ai aidé, hein. Il y avait beaucoup de pierres. Ils m'ont dit, ok, va chercher des pierres de cette taille, machin. Je revenais avec mon seau ou quelque chose, ou la brouette, et hop. Et on a refait toute cette maison superbe, quoi. Enfin, bon, il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante, mais bon, le reste, ça marchait, c'était fonctionnel, quoi. Du coup, mes parents, ils étaient assez fun et open d'esprit. Donc, ils avaient acheté des panneaux solaires. Et après, on s'est séparés. On a eu des animaux, d'abord des chiens. Comme on avait quand même 3 hectares, pour pouvoir nettoyer mieux la propriété, on s'est dit, on va prendre une chèvre. Puis après, la pauvre chèvre, elle était toute seule. Donc, on va prendre une copine ou un copain. Et puis, boum, se retrouver à 26 chèvres. Comme vous savez, les chèvres, il faut les traire. Et puis le soir, quand on était fatigué après une bonne séance d'entraînement ou tout ça, le soir, elle est à la traite.
Alors, parlez-moi dans le micro.
1, 2, 3. Vous m'entendez bien ?
Super. Et alors, vous êtes ?
Nicolas Erdos, premier professeur de Souria Bonaly. Car en fait, je l'ai connue dans son couffin. Suzanne Bonaly, sa maman adoptive, bien sûr, vous le savez, qui était professeure d'éducation physique, venait à la patinoire avec ses groupes d'élèves, comme ils font des cycles piscine, stade, etc. Donc c'était le cycle patinoire, et elle venait d'adopter Souria, et probablement qu'elle n'avait personne pour la garder. Et elle venait, elle était dans le couffin, et elle la mettait sur le banc, elle faisait son cours, mais de la patinoire, de la piste, elle voyait très bien son bébé.
Bien, ça fait un petit peu longtemps, hein. Je ne vais pas mentir, c'est vrai que ça fait quand même 40 ans déjà, donc ça commence à faire. Donc j'ai des souvenirs un peu lointains, mais c'est vrai que je me rappelle et j'ai la chance d'avoir commencé le patin en me faisant plaisir, parce qu'en fait la patinoire était découverte. Je pense, je ne sais pas, j'avais peut-être 2 ans. J'ai commencé avec des patins à 2 lames quand même. Donc j'étais vraiment super petite, quoi. Puis c'était vraiment mon jardin d'enfant, quoi. C'était pas plus, c'était juste là pour attendre ma mère. Et j'ai traîné dans la patinoire depuis que j'étais gamine, quoi. Enfin.
Alors, toutes ces photos sont en vrac. Voilà les enfants du club avec Souria au milieu qui est la plus petite. Là, elle doit avoir 6 ans. Oh oui.
Qu'est-ce que j'ai là?
Le premier gala qu'on a fait à la patinoire en plein air. Regardez comme elle est petite. Eh ben, elle est en costume grenouille. On dirait une petite grenouille.
Elle a l'air déjà très contente.
Oui, oui, mais elle aimait ça, elle. Oui, elle aimait ça, le spectacle. Elle est vraiment petite, petite.
Et elle savait patiner, là ?
Ah oui, 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 oui.
Comment on apprend à un enfant à patiner au début ?
Moi, personnellement, je l'ai fait tomber. Ça va vous paraître curieux. C'est pour qu'il n'ait pas peur de tomber. Et de leur montrer comment on peut tomber sans se faire mal. Et bien ensuite, vous savez, vous leur apprenez à glisser, et de fil en aiguille, des croisés, en avant, en arrière.
Et Souria, elle tombait beaucoup alors ?
Non, elle tombait pas. Elle tombait, c'est vrai, elle tombait pas beaucoup. Parce qu'elle avait un équilibre naturel, voyez ? Ça, c'est important. Je vais vous dire une petite anecdote, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Comme sa maman avait une hygiène de vie très spéciale et qu'il mangeait macrobiotique, enfin bref, il y avait des pauses, vous savez, quand on fait la réfection de glace, donc tous les enfants allaient au vestiaire et les enfants avaient des Mars, des Bounty, des tas de chocolat, des tas de... Et quand Suzanne n'était pas, sa maman n'était pas au vestiaire, hop, vite, il lui donnait sous les bancs. Et elle aimait, bien sûr, elle aimait ça parce que c'était une gourmandise pour elle. Mais enfin, bon, maintenant, il y a prescription.
Oui, donc elle était vraiment aimée des autres, quoi.
Oh, oui, énormément. Oui, c'était la chouchoute à tout le monde. À tout le monde, vraiment. Aux parents, aux enseignants, aux élèves. Elle était très aimée, elle était adorable comme petite fille.
Surya. Dans la mythologie hindoue, c'est la divinité du soleil. Ses parents adoptifs, Suzanne et George Bonaly, ont choisi ce prénom après un voyage en Inde. Surya les décrit comme des hippies qui ont recouvert leur camionnette d'autocollants Greenpeace et refusent de placer leur enfant à l'école publique. Ils supervisent eux-mêmes son éducation.
J'avais une journée très 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 chargée quoi, dans les années 80. Cours de flûte à 8 heures. Plus après, ma mère était vraiment super branchée, mais il faudrait que tu apprennes à parler anglais. Donc très jeune, j'ai appris à parler anglais. Et après, j'allais malheureusement, je faisais plongeon comme à 9h du matin. On me disait, ok, maintenant on va à la piscine, c'était pas loin, c'était pratiquement dans le même quartier. Mon Dieu, je me suis gelée, glacée. J'y allais quand même, j'aimais bien faire les saltos, je les vrille, machin. Donc je le faisais, mais bon, l'eau était glaciale. Et c'est pour ça que je crois que depuis ce jour-là, je déteste l'eau, quoi. J'avais mon entraîneur qui me disait, si tu continues, t'es très bonne, tu pourras aller en équipe de France. Et non, je connais des gens, tu pourras faire des voyages, t'es super forte, regarde tout ce que tu fais. Et je lui dis, non, là, c'est... Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, du coup, j'ai fait plus de gymnastique. Pas loin de la gymnastique, il y avait ce centre qui faisait trampoline, tumbling. Donc, on a insisté plus sur ce sport-là. Et puis, c'était sympa. Et puis, je suis rentrée en équipe de France assez rapidement. Beaucoup de compétitions, des voyages dans toute la France. C'était agréable. Et j'avais aussi le meilleur entraîneur de France, quoi.
Ça, c'est à 7 ans, quoi. 7, 8 ans.
9, 10, 11. Tumbling, c'est en fait une piste de long de 50 mètres de long où on fait des saltos, des flips, tout ça sur une longueur. On mettait des skis à l'envers qu'on ne peut plus utiliser. On les collait tous côte à côte. En fait, en mettant un bout de moquette comme ça, on pouvait sauter par-dessus et ça faisait un peu ressort, quoi. Et voilà, pendant 50 mètres, donc il faut que ça soit tout droit et on fait plein de vrilles, de saltos, tout ça. Je crois que le maximum, c'est 10 éléments qu'il faut faire à la suite.
Je pense que ça l'a aidé quand même parce qu'il y avait une certaine musculature qui s'est faite, qui n'a pas été un handicap pour elle. Au contraire, elle était déjà musclée, donc elle était déjà forte. Et peut-être de là, ses réceptions de saut, elle ne tombait pas parce qu'elle était déjà plus musclée que les autres. La voilà encore sur son tapis, vous voyez. Là, elle fait un exercice de...
Et là, elle est sur les mains, je pense qu'elle est en train de faire la roue ou une rondade.
Comme ça, oui. Vous voyez ses muscles ? Regardez comment on voit les muscles.
Ouais. Alors que là, elle a quoi, 8 ans ?
Oh, à peine, oui, tout juste. Elle était vraiment... Vous en faisiez ce que vous vouliez. Elle captait tout de suite, elle arrivait tout de suite à faire ce que vous lui demandiez. C'était passionnant et c'était attachant.
Surya est adoptée. Elle ne ressemble ni à ses parents, ni à personne de son entourage. Ce corps dont elle a hérité, elle doit l'apprivoiser, en maîtriser les capacités. En 1984, Suzanne Bonaly branche une télévision sur les panneaux solaires de la maison pour regarder les Jeux Olympiques de Sarajevo. Comme le reste de la planète, la famille découvre alors à l'écran une silhouette vêtue d'un juste corps rose dont la grâce deviendra légendaire. La patineuse Katarina Witt.
Double axel.
Surya a 10 ans. Elle n'a aucune raison de se douter que 8 ans plus tard, elle participera à son tour aux Jeux Olympiques. Mais elle rêve déjà d'imiter la championne est-allemande. Alors elle se met en tête d'apprendre un nouveau saut, le double axel.
Toutes mes copines n'avaient même pas encore pensé de faire ce saut. Et moi, écoute, je me suis dit, ça fait maintenant depuis l'âge de 7 ans, je fais le simple. C'est bon, maintenant j'ai 10 ans, il faudrait que je passe à autre chose. Je suis capable, j'ai la hauteur, machin. Allez, j'y vais. Mais c'était sans but de devoir être championne à quelque chose. C'était juste parce que j'aimais ça. Et j'étais jamais saturée, quoi. Je l'ai fait 2-3 fois et boum, boum, d'un coup, comme ça, je me casse la cheville comme ça dessus. Donc là, c'était... C'était un peu la désolation, quoi, parce que je me dis, bon, ben, ça y est, je me suis cassée sur en faisant un saut. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le refaire. Et après, est-ce que je vais avoir peur de patiner? Je suis passée à autre chose. Je me dis, bon, maintenant, j'ai 2 mois de plâtre. Je suis bonne pour un bout de temps. Donc, du coup, je me suis remis à la flûte. J'ai embêté mes parents pendant 3 mois. Et c'est tombé pile poil au moment où j'ai voulu revenir de ma blessure que... C'était l'été, au mois de juillet, où justement le club de Paris venait à Nice s'entraîner. Il n'y avait pas de séance publique parce que justement il y avait ce centre de patinage qui avait monopolisé toutes les heures de patinage. Et donc on se disait, bon, maintenant comment on va faire? Donc ma mère, comme ça, elle a dit, vous pensez qu'on peut, peut-être que ma fille peut essayer 1 heure de patin pour voir si elle s'est cassée le pied? Est-ce qu'elle peut patiner juste 1 heure, quoi, c'est tout, juste pour voir si elle peut patiner. Il dit, oh, oui, on va demander. Et on dit, oui, oui, pourquoi pas. Alors, j'ai mis les patins, ça a l'air d'aller, j'ai pas mal. Je dis, oh, mais moi, j'ai pas mal, je veux continuer. Donc, après, on a demandé un peu plus, si je voulais. Et peut-être en 2 semaines, ou moins de 2 semaines, j'ai refait mon saut, je m'étais cassé le pied dessus.
Dans les gradins de la patinoire Jean Bouin, où la vue est imprenable sur la ville de Nice, Souria fait la rencontre qui va changer sa vie.
Moi, je m'éclatais, je faisais des sauts extraordinaires, je faisais mon double axel. Déjà, j'étais pratiquement plus forte que les élèves de mon âge. Donc, certains élèves ou les autres profs disaient hey, « Tu l'as vu, elle patine bien, t'as vu son saut ?»
Parmi les interlocuteurs de Souria, il y a Didier Gayagué, l'entraîneur de l'équipe de France.
Et après, ben, je sais pas, j'avais même fait un triple, je crois, mon premier triple saut. Et c'est là qu'ils m'ont dit « Attends, tu fais un double axel et un triple ?» Et tu dis que tu patines pas et que tu vas juste te casser le pied. Ben oui, c'est comme ça, c'est naturel, ça se fait comme ça, quoi. Voilà, quoi. Et il m'a dit, bon, ben écoutez, essayez d'aller à Paris.
Souria va quitter sa vie en pleine nature et la patinoire municipale pour la banlieue parisienne et ses entraînements intensifs. Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 2, Dépassement.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016... Je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.